10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Plus de 25 000 personnes mobilisées hier en France contre le projet de loi Sécurité globale. Il s'agit de la troisième semaine consécutive de mobilisation contre cette loi. Dans le cortège, des pancartes dénonçaient également le projet de loi contre le séparatisme, jugé islamophobe. À Paris, 5 000 manifestants étaient réunis selon la police et plus de 100 interventions ont eu lieu. Justice, un client d'une prostituée défenestrée a été écroué hier soir à Saint-Étienne pour tentative de meurtre. Les faits remontent à mercredi. L'homme avait pris la fuite lorsque des témoins ont appelé les secours avant de se rendre le lendemain à la police. La jeune femme de 22 ans est toujours dans le coma. Son pronostic vital est engagé. 135 millions, c'est le montant des amendes reçues par Google et Amazon. Les deux géants américains ont été épinglés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour non-respect de la législation sur les traceurs publicitaires. La CNIL leur reproche de déposer des traceurs publicitaires sur l'ordinateur des utilisateurs sans qu'ils aient préalablement donné leur accord. Brexit, le compromis semble impossible. Les négociations doivent reprendre et se terminer aujourd'hui entre le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne qui se disent tous deux pessimistes. Trois sujets posent problème. L'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques, la manière dont les différends seront réglés dans le futur accord et les conditions exigées par les Européens pour éviter la concurrence déloyale. Covid-19, la Corée du Sud fait face à une troisième vague. Les taux de contamination du pays sont bien loin de ceux de la France, mais les autorités ont indiqué que plus de 1000 cas ont été détectés en 24 heures, ce qui est un record. La Corée du Sud a été l'un des premiers pays touchés par le virus, mais a mis en place un système de tests et de traçage efficace qui lui a permis d'éviter de confiner sa population. Cinéma, Chadwick Boseman ne sera pas remplacé dans le prochain Black Panther, c'est ce qu'a annoncé Disney. Le film doit sortir en 2022.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, dans ce flash d'actualité locale, parlons de ce sapin de Noël géant installé place Félix Faure à Rambouillet. Du fait du contexte sanitaire, en effet, les activités festives de la ville ont dû être pour la plupart annulées, mais la mairie de Rambouillet a décidé de s'engager à faire scintiller, comme dit Madame Matillon, maire de la ville, la magie de Noël dans les yeux des petits et des grands en érigeant un sapin géant. De plus, parce que les fêtes restent un moment de partage intergénérationnel et de solidarité, une boîte aux lettres est installée place Félix Faure afin de recueillir des cartes, des lettres et des dessins qui seront adressés aux aînés. On va du côté de Vieille Église. À Vieille Église en Yvelines, l'atelier Coccinelle et Isanco vous invitent à leur journée portes ouvertes qui se déroule jusqu'au 14 décembre. Venez découvrir les jolies créations de Bernadette et de Magali. Bernadette d'ailleurs propose des objets utiles et décoratifs en bois, zinc, verre et bougie qu'elle a sublimés par la technique du serviettage. Et Magali propose quant à elle des accessoires pour femmes et enfants, des accessoires textiles dont des articles zéro déchet. C'est de 10h à 18h jusqu'au 14 décembre. 19 Clos Gilles à Vieille Église en Yvelines. On termine ce flash en parlant de la Covid-19 et de la détection des signes de la Covid-19 grâce à l'haleine. De fin mars à fin juin 2020, une équipe a analysé tous les matins via un spectromètre de masse l'air expiré de près de 40 patients. Ce procédé non-invasif permet notamment d'analyser les composés organiques volatiles d'un patient placé sous assistance respiratoire et d'obtenir des résultats rapides en moins de 2 minutes. Et cette détection serait d'autant plus possible grâce à des nez électroniques, mais aussi grâce aux capacités olfactives des chiens. Au micro de RVE, le professeur Dominique Grandjean, initiateur du projet Nosaïs.
Le projet Nosaïs, c'est un projet qui est né il y a déjà 2 ans, en fait, indépendamment de la Covid, puisque c'est un projet qui vise à développer en France le chien de détection médicale. Quand la Covid est arrivée, j'avais dans mon bureau 2 personnes, l'une qui est le professeur Riyad Sarkis de l'université de Beyrouth, et puis Clotilde Julien, qui est mon adjointe, et on s'est mis à parler Covid. Et la première phase, ça a consisté à faire de la bibliographie, c'est-à-dire essayer de voir comment on pourrait, avec le nez du chien, approcher ça. Donc on s'est figé sur la sueur. La sueur a l'avantage de ne pas excréter le virus. On a choisi la sueur des aisselles parce que c'est la plus puissante en termes d'odeur. C'est quand même la première fois qu'on fait la démonstration que le chien peut dépister une maladie virale de l'homme. Ça veut dire que dans l'avenir, il y aura d'autres pandémies, c'est évident. Là, on saura dès le début que le chien peut être efficace. Donc on peut espérer que les moyens soient mis au jeu dès le départ pour qu'on ait un outil qui soit encore plus performant.
Merci d'avoir suivi ce flash. Poursuite des programmes sur RVE. Bon dimanche à toutes et à tous.
103.7, on va bien sûr retrouver dans quelques instants Tribune Sport, présenté par Philippe Carnus et son équipe. Mais avant, parlons météo pour aujourd'hui. Avec un ciel qui restera plutôt nuageux et des maximales attendues autour des 8 degrés. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site radio-rve.com.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnus.
Eh bien effectivement, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois à distance en ce dimanche 13 décembre. Alors, on aura ce matin un seul et unique invité, mais c'est quelqu'un qu'on a très souvent l'occasion de recevoir à notre micro, c'est notre ami Patrick Pilorget de l'association Turôme 91. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Alors Patrick, habituellement quand vous venez pratiquement à cette époque, pour nous parler du Raid 28, malheureusement cette année, on va en parler durant une bonne partie de cette émission, il n'y aura pas d'édition donc 2021, il faudra attendre 2022.
Oui, alors compte tenu de la crise sanitaire, il y a déjà plusieurs mois, nous avons pris la décision de ne pas réaliser notre Raid 28 le 16 et 17 janvier 2021 et de se reporter sur le 22 et 23 janvier 2022.
Voilà, donc ça veut dire que vous avez déjà fait le travail, tout est prêt, vous n'avez pas grand-chose à faire en cette année 2021, finalement.
Alors, justement, nous avons gardé le secret, évidemment, du parcours 2021 oui. Pour le reporter sur 2022. Tout est prêt, l'équipe qui trace le parcours a fort bien travaillé, c'est très, très joueur, comme d'habitude, et on va traverser des endroits magnifiques, comme chaque année, dans notre belle Île-de-France.
D'accord, alors Patrick, on aura l'occasion naturellement largement d'en reparler tout au long de cette matinée, mais je voulais avant, vous l'homme aussi du Téléthon sur les Ulysses et sur Bure-sur-Yvette, vous demander 28,29 millions d'euros, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui a été collecté en cette année 2020 par le 36-37 ?
Malheureusement, évidemment, les dons ont baissé. Les activités de tous ceux qui s'y étaient préparés ont été reportées, annulées, etc. Ça n'a pas empêché quand même les donateurs d'être généreux. Compte tenu des circonstances, évidemment, il faut continuer de se battre toute l'année pour le Téléthon. C'est ce que l'on fait malgré que nous ayons mis fin à nos activités pratiques. C'était une grande déception, mais il faut quand même continuer de se battre sur cette belle cause.
Oui, il fallait un peu s'y attendre. Alors, on peut être optimiste parce qu'on avait encore jusqu'à cette semaine pour faire les dons. On va rappeler que l'année dernière, on avait collecté plus de 74,6 millions. Et puis finalement, à l'arrivée, on a vu 87 millions. Donc là, 58,2 millions, on peut espérer plus parce que ce ne sont que des promesses de dons.
Bien sûr, il faut continuer de se battre sur le sujet et communiquer le plus souvent possible pour que les donateurs restent généreux sur ce sujet-là.
Alors Patrick, on va maintenant aborder le Raid 28. Sincèrement, entre nous, je crois que c'est la deuxième fois que le Raid 28 est annulé. Il n'y a pas une déception, même parmi les concurrents et concurrentes.
Alors là, c'est nous qui avons décidé de ne pas faire cette édition-là. C'est une annulation qui est complètement différente. Elle a des conséquences, elle a des conséquences heureuses pour nous, parce que cette année, en 2020, nous avons reconstruit totalement le site Raid 28. Il se trouve que dans mon staff, il y a des personnes qui ont beaucoup de talent, qui sont compétentes, c'est des vrais amis, des gens qui aiment le Raid 28 depuis pas mal d'années, et ils ont décidé de reconstruire le Raid 28. Le site raid28.com est devenu absolument magnifique. Ce sont des archives de ces 27 années passées dans les champs, dans les bois, etc., avec tous nos amis, et RVE en fait partie évidemment. Nous avons mis sur ce site tous nos films, les photos, les classements, les comptes rendus, tous les délires verbaux et oraux que j'ai pu avoir. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, le site Raid 28, cette année, est la grande nouveauté de l'équipe du Room. Plus, l'activité que nous allons avoir en 2021 va être très intense. Malgré que ce n'est pas le Raid 28 en janvier, nous avons lancé, il y a maintenant plusieurs semaines, les défis Raid 28 2021. C'est-à-dire que pendant toute l'année, depuis le 28 novembre de cette année, jusque il n'y a pas de date, pendant tout 2021, nous avons lancé des défis du Red 28 qui sont des jeux virtuels ou réels, basés sur des défis que l'on invente. Et il y en a beaucoup. Le service recherche et développement du Red 28 n'est pas à court d'idées. Et le 28 novembre, nous avons lancé les deux premiers défis. Un défi qui est un défi basé sur un jeu d'orientation qui s'appelle les fléchis allemands. Enfin, ça va amuser beaucoup d'orienteurs. Et puis le deuxième défi est un défi qui nous balade dans une grande capitale de l'Est et on s'amuse à rechercher des résultats qu'il faut publier sur le Red 28 et qui seront donnés le 28 décembre.
D'accord, donc ça veut dire que tout le monde peut se connecter, tout le monde peut jouer. Sur quelle application va-t-on, Patrick ?
On va sur red28.com, ouais. Et puis on se laisse guider par les instructions qui sont données. Il y a actuellement 3 défis qui sont ouverts, dont 2 qui sont lancés. Le troisième, c'est un défi qui va être lancé sur les pistes de la station de trail de Bure-Vallée de Chevreuse.
D'accord.
Évidemment, tout le monde connaît dans la région. Et il faudra aller sur place. Ce sera lancé après le 15, puisqu'il y a une opération de semi-déconfinement pour les sportifs à partir de 2015.
Du 15 2021.
Décembre. Ouais, du 15 décembre 2020.
Ouais. 15 voilà, 2020
nous préparons,
après.
Ouais. Nous préparons une surprise aussi pour les mois suivants. Mes amis ne manquent pas d'idées, donc il y a déjà beaucoup de défis qui sont en préparation. Et puis, on est en préparation pour un grand défi du 16 et du 17 janvier 2021, à la date du Red 28 qui n'aura pas lieu, mais il y aura un jeu qui sera préparé pendant 24 heures, 16 et 17 janvier 2021.
Donc, si je comprends bien, il y aura quand même un Red 28 en 2021, mais un Red 28 virtuel, Patrick.
Voilà, ce sera une succession de jeux. Alors, les joueurs peuvent s'inscrire déjà. Environ sur les 3 défis, plus de 150 joueurs. Il y en a déjà qui ont trouvé des résultats. Les résultats ne sont publiés qu'au bout d'un mois, tous les 28 du mois, évidemment, pour qu'il n'y ait pas de, pour que le secret reste gardé. Les joueurs vont acquérir des points. Et puis, on offrira des cadeaux aux personnes qui seront les plus méritants dans ce jeu d'orientation sur le Red 28.
D'accord, vous voyez, c'est aussi un jeu d'orientation, mais on n'ira pas courir, Patrick.
Alors, ça va durer toute l'année, il y aura beaucoup de surprises, tout le monde pourra jouer. Alors évidemment, tout le monde peut jouer quand le jeu est en ligne, il est virtuel, et pourront jouer les gens de la région parisienne sur la station de trail de Bure-Vallée de Chevreuse, mais nous préparons des visites dans d'autres endroits. Vous serez surpris toute l'année de l'esprit inventif de mes amis du Red 28.
Oui, parce que je suppose quand on est organisateur et qu'on vit une telle période, il doit y avoir des moments de découragement. Vous, apparemment, c'est le dernier de vos soucis. Hein.
Alors, tu le connais, Philippe, découragement, c'est un mot qui n'existe pas chez nous.
Oui.
On peut avoir des déceptions, mais ça ne dure pas très longtemps et on reprend vraiment du poil de la bête à chaque fois. Tu l'évoquais tout à l'heure, on a connu des déboires avec des annulations, des reports, des contrariétés de terrain que l'on a vécu comme beaucoup d'autres organisateurs. Mais le staff du Red 28 est sérieux, sait remonter la pente et sait faire face à toutes ces difficultés.
Oui, d'autant plus, hein, Patrick, qu'on l'a dit, naturellement, il n'y aura aucune épreuve de course à pied, au moins jusqu'au mois d'avril. Hein, on a eu l'occasion d'avoir, il y a quelques semaines, Hervé Joly qui nous a annoncé l'annulation du semi-marathon de Rambouillet. On sait qu'il n'y aura pas non plus la corrida de Houille, hein, qui servait de tremplin entre deux années. Il n'y aura pas le marathon de notre ami Patrick Bonneau, et puis ni le semi-marathon de Bullion. Il n'y a pas eu naturellement la corrida aussi de Rambouillet ce samedi. Donc, bon, vous êtes tous à la même enseigne hein, pour l'instant.
Oui, alors c'est très sage de la part des organisateurs d'événements en général de reporter les événements qui regroupent des personnes en nombre parce que, évidemment, c'est dangereux. Il faut que les organisateurs participent à tout cela et puis laissent la place, peut-être, aux commerçants qui ont besoin d'exister. Alors, dans ce qui reste, moi, je pense à tous ceux qui font pas des événements, mais qui sont des commerçants qui vivent à l'année de leur travail. Je pense qu'il ne faut pas encombrer les lignes avec des organisations, surtout des organisations bénévoles. Bien entendu, même les organisations bénévoles ont besoin des revenus qui sont procurés par leurs courses, mais c'est moins grave de sauter une année parce qu'on arrive à subsister, on a toujours un petit peu de réserve financière, mais une organisation de bénévoles peut aussi disjoncter faute de ressources. Alors nous, on se débrouille sans ressources cette année parce qu'on a une petite trésorerie, on est sérieux tous les ans et on évite les dépenses trop importantes, donc on va pouvoir tenir et organiser le 28e Raid 28 en 2022.
Absolument. Alors justement, est-ce qu'il y avait déjà des concurrents et concurrentes qui s'étaient inscrits pour cette édition 2021 et qui va falloir rembourser ?
Oui, il y avait des gens, on les a automatiquement remboursés.
D'accord, totalement. Très bien. Alors vous l'avez dit Patrick, édition 28 du Raid 28 en 2022, hein, ça sera les 22 et 23 janvier. On va rappeler quand même que le Raid 28 a un peu évolué depuis quelques années. Il y a plusieurs épreuves dans l'épreuve.
Ah oui, bien entendu. Oui. Le Raid 28 s'écline en plusieurs distances. En fait, il y a une grande distance qui est l'Ultra Raid 28, qui fait entre 100 et 120 km. Alors 110 km sur le prochain.
Et, par équipe de 3, hein, par équipe de 3, alors, faut rappeler. Hein.
Voilà. Alors en général, tous les événements du Raid 28 sont par équipe de 3, sauf le Raid 28. Alors le week-end du Raid 28, il y a 6 événements. Il y a toujours le Raid 28 à 5 mixtes, ça reste. Par contre, il y a donc, je te les cite dans l'ordre. Il y a l'Ultra Raid 28 qui fait 110 km. Ça, c'est une course à 3, open. Alors, on dit open parce que c'est mixte ou pas mixte. Voilà. Il y a après le Raid 28 et l'équipe au trail qui sont deux courses de 70 km. Le Raid 28 à 5 mixtes et l'équipe au trail à 3 personnes qui étaient destinées à partir de. D'Épernon, ça avait été annoncé, donc c'est pas un secret. Voilà, donc on refera un accord avec cette commune pour partir de là-bas. Hein. Donc cette course va partir. Alors l'Ultra Raid 28 va partir le samedi après-midi, je crois vers 15h.
D'accord.
15h ou 15, quelque chose comme ça, 15h, 15h30. 15h. Le Raid 28 et l'équipe au trail vont partir à 20h30. 20h ou 20h30 de Épernon pour 70 km. Bon, continue un trajet, etc. Il y a donc 35 km de l'ultra jusqu'au départ du raid qui se déroule dans la nature aussi. Ensuite, tout le monde court sur le même terrain. Il y a le départ du semi-raid 28. Alors, le semi-raid 28 doit partir de Rambouillet. Je dis également qu'on avait prévu que l'ultra-raid 28 partirait également de Rambouillet. Donc, bon. Rambouillet revient dans nos aventures.
Avec une nouvelle équipe municipale qui va être contente. Voilà.
Oui, mais Philippe, l'équipe municipale a changé, mais j'ai retrouvé des gens que je connaissais. C'est un très, très, très grand plaisir de s'organiser avec eux, de retrouver des personnes qui vous avaient déjà aidé il y a pas mal d'années, parce que les élus changent.
Bien sûr.
Mais les responsables restent.
Voilà. Bien sûr.
Donc, on se connaît depuis longtemps avec les gens de Rambouillet, et on avait prévu le départ. Bon, c'est reporté, on refera. Donc, ça, c'est le départ du semi-raid 28 qui fait 45 km, qui se balade également dans la nature. Et tout le monde continue pour arriver à Bure-sur-Yvette. Et à Bure-sur-Yvette, il y a les deux départs, comme d'habitude, le départ du Bure 28, 28 km, et le départ du mini-raid 28, 12 km. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais les départs de Bure sont toujours des départs originaux. Alors, on part par le train, par le RER, en autobus. Je sais pas, un jour, on partira en hélicoptère. Ou,
je qui sais, sait, pas, qui on ne sait pas. Ben ouais. Bon, c'était nécessaire, c'était utile de se diversifier, Patrick.
Alors, oui, parce que le Raid 28 a connu un grand succès jusqu'en l'an 2000, où on a été 66 équipes, c'était le sommet. Par contre, après, il s'est créé énormément d'événements sportifs. Le trail a connu un succès formidable. Les grandes enseignes ont proposé des services, des sponsoring. Il y a eu beaucoup de coureurs qui ont fait un métier et qui sont devenus des semi-professionnels dans le domaine du trail. Donc, ça a été un développement considérable au début des années 2000, au 21e siècle. Donc, nous, on s'est trouvé concurrencés avec notre Raid 28, parce qu'on n'a pas d'ambition de grossissement. Et on a créé progressivement, à partir de 2000, je sais plus quelle année, 2010 ou 2009, on a créé l'Ultra, le SMI, etc., etc. On a décliné dans le 28 en plusieurs courses. Ce qui fait que chaque année, on a entre 400, 450 concurrents. Franchement, Philippe, ça suffit à notre bonheur.
Oui, non, c'est sûr. Et puis, Patrick, c'est aussi une façon de l'ouvrir à d'autres coureurs et puis coureuses quand même, hein, parce que c'était quand même une épreuve très très particulière, bien spécifique. Aujourd'hui, le grand public a le sentiment que c'est bah, que c'est possible.
Alors, on découvre un avantage d'avoir décliné le Red 28 dans plusieurs distances, c'est que nous, on a des amis. Oui. Des coureurs avec qui je courais autrefois au XXe siècle, qui courent toujours, voilà. Ses amis et puis d'autres personnes ont commencé les Red 28, l'Ultra Red 28, mais ils vieillissent, le temps passe, la forme baisse, et ils se reportent sur des courses plus courtes. Et j'ai le plaisir, j'ai un ami que tu connais, qui s'appelle Jean-François Boissonneau, qui est une célébrité dans le domaine de la course à pied, et chez nous, il a fait toutes les éditions des Red 28, depuis les débuts. Donc, comme il a mon âge, il court encore, mais il prend des distances de plus en plus faibles. Mais il est toujours avec nous. C'est un immense plaisir de le connaître, lui, et puis tous ceux qui viennent depuis des années, dans notre week-end de Red 28.
Alors, Patrick, est-ce que ça n'a pas aussi posé problème au niveau des bénévoles? Parce que quand on multiplie comme ça le type d'épreuve, on multiplie fatalement les bénévoles.
Alors, oui, c'est vrai, c'est un problème. Alors, on a la chance d'avoir des bénévoles qui sont extrêmement fidèles. Mmh. Et dans l'annulation en 2021, la défection des bénévoles était une des causes de notre décision. Parce qu'on a, on a craint d'avoir une baisse des bénévoles compte tenu de la situation. Et on s'est dit, à ce moment-là, on ne pourra pas l'organiser. Alors, chaque année, on s'organise de mieux en mieux. Les bénévoles deviennent de plus en plus compétents, de plus en plus fidèles. On essaie de faciliter le travail en leur donnant des instructions très claires. Il y a une belle équipe. Franchement, non seulement le staff, mais les bénévoles de Red 28, c'est une très belle équipe.
Et vous avez aussi des renforts de certaines autres associations sportives, des Yvelines ou de l'Essonne ou de Renoir.
Alors voilà, on a des renforts, notamment des gens que tu connais sur Versailles, sur Rambouillet, sur Épernon. Sur Saint-Rémy-les-Chevreuses, à tel point qu'il y a des amis qui sont dans d'autres associations, notamment à Chevreuse, et qui deviennent bénévoles chez nous aussi. Sans compter qu'il y a également à Bure deux associations très importantes sportives, parmi d'autres. Il y a le jogging du dimanche matin, qui est pour nous une très très grande ressource de bénévoles. Ce sont des amis qui sont avec nous depuis des années et des années. Leur présidente, évidemment, fait partie du staff. Donc ce sont des gens très actifs avec nous. Et puis il y a également à USBI, c'est l'Union sportive de Bure-sur-Yvette, une section marche nordique. Le responsable, c'est notre trésorier de l'équipe Urroom, c'est quelqu'un qui est avec nous depuis des années et des années. Et il a initié avec la mairie de Bure et son maire, Jean-François Vigier, cette activité sportive. Et les gens de la marche nordique de Bure sont très actifs et coureurs et bénévoles avec nous.
Comment ont réagi les partenaires, ceux qui vous accompagnent depuis le début de cette épreuve? Ils vont vous rester fidèles, Patrick?
Je pense que oui. Les plus grands sponsors qui nous aident, qui sont d'ailleurs dans notre documentation, peut-être cette année seront moins généreux, mais on a moins de besoins. Voilà. Mais on garde le contact avec tous, puisque si tu vas si les auditeurs vont regarder sur le site red28.com, ils verront également le panel avec l'ensemble des sponsors du Red 28. Il y a des très grandes enseignes dont on est fiers d'afficher le nom sur notre panel. Mais il y a également une grande quantité de personnes qui nous aident depuis des années et des années. Hein, j'avais cité, parce que j'aime bien le citer, un marchand de légumes du marché de Bure-sur-Yvette qui tous les ans nous donne 100 à 150, voire 200 kilos de légumes pour faire la très fameuse soupe du Red 28.
Ouais, c'est ça, celle qui clôt l'édition, hein, c'est ça d'une façon générale, Patrick. Hein.
pardon, j'ai pas compris la question.
Celle qui clôt l'édition en cours, d'une façon générale.
Ah oui, c'est la soupe de l'arrivée. Celle-là aussi où on avait des difficultés, c'était en regroupant tout le monde à l'arrivée, on fait une grande fête. Donc faire une fête, c'est aussi mettre les gens en danger devant les menaces de ce virus.
Bien sûr. Allez, on marque une petite pause musicale, une petite page de pub, et puis on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission du dimanche 13 décembre.
RVE 103.7.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle, ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible, que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair, ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. De relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille, le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, comme sec sans mes bras. Comme sec sans mes bras.
Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
DMP Doc des Matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et stockiste des grandes marques pour tous vos matériaux. Le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des Matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h. Ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des Matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Deuxième partie donc de ce rendez-vous avec notre ami Patrick Pulorgel. Je voulais simplement vous dire, naturellement, cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions de cette saison 2020-2021, puis également celle du début de l'année 2020. Patrick, vous êtes sûr que des sponsors vont pas se retirer dans les prochaines années quand même? Il n'y a pas un risque, il n'y a pas une crainte, malgré leur fidélité?
Alors, les sponsors que l'on a, pour beaucoup, je les connais personnellement. Ce sont des gens qui nous aident, qui seront fidèles. Cette année, pendant le 2021, on ne va pas les solliciter. Ils sont au courant de notre décision, tous. Et on ne manquera pas de les relancer pour 2022, parce qu'on aura des besoins. Du point de vue financier, je ne peux pas dire qu'on n'a pas de difficultés. il n'y a pas de grandes difficultés, puisqu'on est chaque année très sérieux, on essaie de ne pas faire trop de pertes. Avec les années où on a fait des excédents de gestion, on a une petite trésorerie qui nous permet de tenir. Et puis d'effacer les dépenses que nous avions déjà engagées sur le RED 28 qui est annulé en 2021. Donc ces dépenses-là, voilà, on va essayer de les couvrir comme on peut. Ça va faire un déficit, évidemment. Mais pour 2021, j'ai plutôt confiance dans nos sponsors qui reviendront nous aider. On fera ce qu'il faut. Par contre, c'est difficile de trouver des nouveaux parce que l'ambiance n'y est pas.
Bien sûr. Alors, en dehors du RED 28 2022, il y a quand même des projets pour 2021. On peut pour Trôme, hein, je crois que vous avez d'autres projets en cours pour cette année 2021.
En 2021, il y a les défis RED 28 qui vont permettre à tout le monde de jouer en partant du site red28.com où il y a beaucoup d'informations. Donc ça va être intéressant et ça permet à notre staff de rester très actif dans l'invention des jeux. J'ai dit tout à l'heure que le service recherche et développement de l'équipe Turum était toujours 24 heures sur 24 en éveil pour pouvoir proposer des nouveaux jeux. Et tout le monde sera surpris de voir l'esprit inventif qu'il y a dans cette équipe.
Et dans la deuxième partie de l'année 2021, une fête du sport ou une participation de votre association, comme vous le faites parfois, Patrick, c'est aussi envisageable.
Alors, nous participerons aux événements sportifs qui vont se réouvrir lorsque la situation va se détendre. Évidemment, on sera sur les 12 heures de Bure, on sera également... les événements de Bure, nous y sommes bien entendu très attachés. Et à chaque fois que le service des sports et la mairie de Bure remettront en route leurs événements sportifs, nous serons là.
Alors Patrick, il y a quand même un énorme problème, hein, c'est d'organiser des événements sportifs, que ce soit de course à pied, des courses de vélo, des courses d'orientation. Vous êtes tous confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes. Et le pire, c'est que c'est de plus en plus compliqué quand même.
Alors c'est de plus en plus compliqué parce que l'administration devient de plus en plus exigeante. Alors on en comprend les raisons, hein, on est dans un monde complexe où les gens...
C'est pas trop des fois, Patrick? C'est pas trop quand même des fois? C'est pas un peu trop loin des fois quand même?
Moi je dis rien, je fais ce qu'il faut et les organisateurs, si tu veux, il y a depuis plusieurs années, j'avais déjà dit autrefois, depuis plusieurs années, les préfectures et l'administration s'est organisée autour de l'événement sportif et en particulier autour du trail. Voilà. Donc, on a en face de nous des personnes que l'on connaît parce qu'année après année, dans ces organisations, ce sont souvent les mêmes personnes, beaucoup des dames, évidemment. On se connaît, on se comprend, on fait attention, on essaie de faire des dossiers propres et dans les délais. Et on se fait respecter, nous, équipe Turum, parce qu'on essaie d'être très sérieux. Ce qui est désagréable, c'est que les autorités ont des dirigeants et que quelquefois, les dirigeants sont obligés de prendre des décisions. Là non plus, je ne discute pas, mais ce sont des décisions qui mettent en cause tout le travail qui est préparé par les bénévoles dans l'année. Et l'annulation que l'on a connue en 2017 a été très très dure à supporter. Ça s'est produit en deux fois. C'était un coup de marteau sur la tête donné trois jours avant le départ. Ça, c'est des choses qui sont difficiles. Alors, ça ne se plaide pas en justice, mais franchement, c'est des coups durs très injustes qui sont assénés aux associations. Alors, malheureusement, dans ce domaine-là, il y a des annulations. Je ne parle pas des risques sanitaires, mais en général, il arrive que les organisateurs d'événements sportifs se fassent refuser leur passage et leurs événements pour des raisons évidemment qui nous paraissent injustes, hein. Et ça coûte cher parce que ça peut conduire à la mort de l'événement. En France, ailleurs je ne sais pas trop, mais en France, il y a beaucoup d'événements qui sont morts, à la fois à cause de ce coronavirus, mais qui sont morts aussi à cause des décalages, des interdictions, des atermoiements où on ne savait pas si on faisait la course ou pas la course. On rembourse, on ne rembourse pas. Donc il y a eu beaucoup d'événements sportifs qui ont été annulés. Et puis il y a également des grands événements sportifs où il y a eu du rififi dans le staff, ce qui a fait casser l'organisation. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il faut se référer à la vie des grands événements, mais on sait que les grands événements qui étaient prévues mais qui n'ont pas eu lieu, comme l'ultramarin, comme l'ultra-trail du Mont-Blanc et tout ça, toutes ces grandes courses qui ont été annulées, elles devaient avoir lieu, elles ont été annulées, les gens ont été remboursés, pas remboursés. C'est extrêmement compliqué. Pourquoi c'est compliqué pour eux ? Parce que ce sont des gens qui sont quasiment des professionnels. Il faut savoir que comme le Marathon de Paris, comme toutes ces courses-là, ASO et les grandes organisations d'événements sportifs, sont des professionnels. Donc, ils sont comme nos commerçants. C'est-à-dire que si l'événement n'a pas lieu, il n'y a pas de chiffre d'affaires, ils sont obligés de mettre en sommeil leurs activités et le chiffre d'affaires revient à zéro. Donc, je pense à eux parce que ce sont des événements qui méritent d'être conservés, petits ou grands, et on est mis à mal. Mais je le répète, il faut, dans des moments difficiles comme celui qu'on vit en ce moment, laisser la priorité aux commerçants dans l'ensemble, et puis aussi essayer de rétablir le plus vite possible les activités artistiques qui souffrent comme c'est pas possible, et puis les activités de restauration qui sont complètement mises à mal. Alors, quand on va sortir de là, il y aura eu des dégâts.
Oui, alors justement, Patrick, même en matière de sport, il y a fatalement des épreuves qui vont disparaître, hein, certaines qui vont être lâchées financièrement par leurs partenaires, par des collectivités locales. Fatalement, malheureusement, il risque d'y avoir des morts.
Et oui, parce que les collectivités locales sont aussi soumises à cette crise et elles vont être obligées de partager leurs subventions entre les urgences. Je pense aussi aux concurrences qu'il y a dans le domaine entre les associations humanitaires et les associations sportives. On se doute qu'il ne faut pas laisser tomber les associations humanitaires. Évidemment, les bénévoles des associations sportives vont se débrouiller pour trouver des ressources. Ils seront encore en premier plan pour pouvoir donner encore.
Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi trop d'épreuves de créer ? Parce que vous l'avez dit, au fil des années, on a créé de plus en plus d'épreuves. Est-ce que finalement, il n'y avait pas aussi trop de monde sur le marché, entre guillemets ?
Je ne sais pas. Moi, je dis non. Parce que je suis un ancien coureur à pied du XXe siècle. J'ai beaucoup donné. Il n'y avait pas autant de courses autrefois. Il y en avait quand même beaucoup. Mais aujourd'hui, des trails, c'est difficile à organiser. Administrativement, c'est assez compliqué. Pour les bénévoles, c'est pas facile de tenir les postes dans la forêt, etc. Donc, c'est difficile d'organiser des trails. Il y en a eu beaucoup, et je trouve que c'est très bien, parce que les sportifs, les coureurs à pied, enfin, en France, les coureurs à pied sont très nombreux, aussi bien pour faire 10 km que pour faire 1000 km. Il y a énormément de monde. C'est normal qu'il y ait beaucoup de courses à leur proposer. Je trouve que cette concurrence, elle est très bien. Nous, ça ne nous gêne pas, parce qu'on n'a pas d'ambition de passer à 1000, 2000, 3000 personnes. Tu imagines le Red 28 avec 1000 personnes, dans les petits sentiers, les chemins, tout le monde en train de chercher les balises.
C'est fou. Ouais. C'est une épreuve, vous n'avez pas été copié, on n'a pas essayé de... Parce que c'est un concept quand même original, hein, le Red 28, on en parle tous les ans. Est-ce que vous n'avez pas essayé d'être copié, que ce soit en France, en Europe ou même dans le monde, Patrick ?
Alors, dans le monde, je ne sais pas, parce que je ne sors pas assez. Mais,
mais par Internet, on peut savoir.
Il y a une époque où on a été, je ne sais pas si on a été copié, les journalistes nous appelaient le père des raids hivernaux, avant 2000. Alors, on a été copié, je ne sais pas si on a été copié, mais les gens qui ont fait ce qu'on faisait, je me souviens du raid normand. Tout le monde connaît le raid normand dans la course à pied. Donc, ça a été organisé par quelqu'un que je connais très très bien, que je revois de temps en temps, qui a arrêté sa course pour des raisons qui le regardent. Mais le Raid Normand, c'était un peu le Raid 28. Et puis, il y avait également un Extreme Run qui avait lieu dans le Pas-de-Calais, qui nous ressemblait. C'était aussi un organisateur que je connaissais. On était amis. Et les trois courses faisaient un challenge tous les ans. Il y avait le challenge de ces trois courses qui ont lieu en décembre et en janvier. Et pour la soirée qu'on a appelée ensuite la soirée des Panards, on offrait aux coureurs qui avaient participé aux trois courses, des cadeaux. Il y avait un challenge des trois courses, entre nous. Ils ont fini par arrêter. Ça nous ressemblait complètement. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de trail orientation comme le Raid 28 ? Parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande de la technique, des gens qui connaissent à la fois la course à pied, la course d'orientation. Ça demande de passer des heures et des heures, des jours, une année, dans la forêt, dans les bois, dans les champs, à trouver des balises intelligentes, pertinentes, trouver des chemins intéressants et des chemins autorisés. Donc ça demande beaucoup de travail. Franchement, il faut essayer comme mes amis pour faire ça. Mais c'est beau.
Oui, et ce qui est fou, c'est que vous arrivez à vous renouveler tous les ans, à trouver des idées nouvelles. C'est ça qui est fou.
Eh oui, mais on est quand même à travailler la question. Il y a le staff, c'est 15 personnes actives à l'année.
Mmh.
Alors qu'avant, c'était 3 ou 4, comme ça, qui se mettaient en route au mois de juin. Non, maintenant, c'est toute l'année.
Et puis, Patrick, c'est aussi la particularité de votre épreuve. C'est une épreuve de nuit. Et ça, la nuit, ça marque quand même. Hein. Quand on vient au Red 28 et qu'on termine cette épreuve, on est fatalement quelqu'un d'autre à l'arrivée.
Ah oui, on est quelqu'un d'autre. Les organisateurs aussi. Oui. C'est pour ça qu'à l'arrivée, parlons de l'arrivée, parce que l'arrivée, on l'organise tous les ans dans un grand gymnase qui est dans l'université Paris-Saclay. Donc à Bure-Orsay, c'est un très grand gymnase, on est fort bien accueillis tous les ans là-bas et on peut vraiment faire la fête avec une animation, des repas, la bière, les crêpes, les jeux, enfin bon, on peut vraiment faire une vraie fête à l'arrivée et ça compte beaucoup. Et ne pas faire cette fête à l'arrivée du Red 28, c'était pas possible.
Mmh. Oui, et puis aussi avec un classement qu'on connaît maintenant pratiquement à l'arrivée. Là aussi, il y a eu des énormes progrès, parce que je me souviens qu'il fallait souvent attendre quelques heures avant de savoir quelle était l'équipe qui, en fonction des balises et de son temps, avait gagné. Aujourd'hui, on connaît pratiquement l'arrivée en direct.
Oui, alors ça, c'est grâce à un effort que l'on a fait en mettant des doigts électroniques sur les balises. Alors c'est assez compliqué parce que dans les courses d'orientation, il n'y a pas la possibilité d'avoir 150 balises, donc faut ruser, faut organiser ça. Ça fait partie de la compétence de notre organisation, d'avoir la connaissance sur le sujet, de savoir aussi manier les logiciels qui vont avec, mais aussi d'établir avec les partenaires capables de nous louer ou de nous prêter le matériel pour mettre aux positions des balises.
Et vous êtes toujours d'accord entre vous, qu'est-ce qui déniche une idée? Vous en parlez entre vous, il y a en général tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Alors, il y a la grande décision du parcours, ouais. Ça naît un peu comme ça d'un projet. Autrefois, c'était un petit peu moi qui imposais le projet. Maintenant, on est deux ou trois. Ah, mais moi, tu sais, je suis comme le vieil indien dans le tipi maintenant. Je laisse les autres travailler. Ils ont beaucoup d'idées. Puis je sors moins. Hein. Je n'ai plus la capacité à cavaler à vélo pendant des heures et des heures dans les forêts. Ceux qui peuvent le faire le font encore. Donc il y a un projet de parcours tous les ans où il faut trouver des villes de départ bien placées avec peut-être des accès, des parkings, etc. Donc ça, c'est une recherche tous les ans. Et puis il y a également les spéciales. Le grand truc du Red 28, c'est des balises qui ont des poids avec des spéciales. Et les spéciales, c'est des jeux d'orientation. Et ceux-là, il faut les inventer. Et voilà comment ça se passe toute l'année. Ceux ou celui ou celle qui a une idée de spécial, elle le soumet au staff. Donc, on est 12 à 15 personnes. On reçoit la spéciale. On va la faire sur place, soit à plusieurs, soit tout seul. Et on donne notre avis. Et ils sont durs entre eux. On est durs entre nous. Et ils donnent leur avis sur ça, c'est pas bien, là, c'est intéressant, là, c'est trop compliqué, là, ça passe pas, là, ça passe, là, c'est drôle, etc. Donc, on juge les spéciales parce qu'on les fait nous-mêmes dans l'année.
Mmh. Et ça, on va rappeler. C'est un an avant que ça se prépare, Patrick. Hein.
Ah, ça se prépare un an avant, oui, parce que les spéciales sont des inventions de notre association et on les essaie pour pouvoir offrir aux coureurs quelque chose de bien fait, sérieux, intéressant, qui mettent à l'épreuve les équipes très formées ou moins formées. Donc, il en faut pour tous les goûts.
Et puis, rentrer en contact avec aussi les villes ou les villages que l'on souhaite avoir comme accueil ou comme arrivée, c'est facile. Un an avant, on les contacte, on a parfois certains refus.
Ça arrive. Souvent, c'est très très rare. Je pense que dans toute l'histoire du Red 28, il n'y a que deux fois où la ville nous a été refusée. Alors peut-être qu'on s'y prend trop tard des fois. Bon, enfin, mais c'est toujours des très très bons contacts parce que les rencontres avec avec les gens, on va dire les gens du coin, c'est quoi formidable. Je te cite un exemple. L'année dernière, on était parti de La Queue les Yvelines.
Oui.
Et le gardien, évidemment, et bien, on est parti à 20h, d'après on est parti à 3h du matin. Et le gardien était avec nous, il est resté avec nous. Vraiment, on avait sympathisé, parce que c'est un grand gymnaste qui est un petit peu isolé dans la ville. Et il a été à notre disposition tout le temps. C'est un magnifique souvenir pour tout le monde.
Mmh. Alors, ça touche trois départements, l'Essonne, les Yvelines et puis l'Eure-et-Loire. Est-ce qu'un jour, on envisage peut-être de pousser un peu plus loin ? La Seine-et-Marne, le Loiret, pourquoi pas ?
Oui, pourquoi pas. Alors le problème, c'est que quand on va loin, il faut pouvoir transporter tout le monde. Tu sais que les départs des courses, il faut pouvoir acheminer les gens. Quand on peut, il y a une gare, il faut mettre des navettes en route pour permettre à tout le monde d'aller au départ dans des bonnes conditions. Donc on tient compte de tout cela. Et préparer le RAID 28 d'une année, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'en 2021, on n'a presque plus rien à faire, puisqu'on espère partir dans les mêmes conditions que celui qu'on avait prévu. Je pense que ça se passera très bien. Et 2022 est prêt, voilà.
Voilà, et puis on va pouvoir plancher sur peut-être la 30e qui arrive dans deux ans plus tard.
Alors, je ne sais pas.
On y pense déjà un peu, Patrick ? On y pense déjà un peu, tout petit peu ?
Bah, on pense, j'avais expliqué un jour que on est comme les poules. Ouais, une poule, elle pond un œuf. Paf, tu ponds ton œuf, près de 28. Crac. Là, il a la coquille, tu peux le manger. Mais l'œuf de demain, le RAID 28 de l'année d'après, il est dans la poule, mais il a la coquille un peu molle.
Mmh.
Et puis l'œuf de dans 3 jours, donc il est déjà, si tu regardes la poule, elle a déjà les œufs. Alors nous, on est comme ça. On a des œufs en avance pour plusieurs années. Mais on ne dit pas où on va les poser.
Ouais, d'accord. Alors, on va quand même rappeler aussi que quelqu'un qui participerait au RAID 28, hein, l'Ultra RAID ou donc le RAID 28, c'est une préparation particulière au départ. Hein. Bon, maintenant, le fait d'avoir multiplié les épreuves, on l'ouvre à davantage de personnes, mais c'était une préparation physique et mentale bien particulière et bien spécifique.
Alors, autrefois, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des ultras, ah oui. C'est-à-dire des courses de plus de 80 km. Il n'est pas beaucoup. Maintenant, on en trouve beaucoup. Donc, les distances, 100 km, 70 km, etc., trouvent toujours des concurrents. Ce qui est plus compliqué, c'est de former une équipe. Ça reste un challenge. C'est pour ça que je dis souvent, être au départ du RAID 28, c'est déjà une belle victoire. Ceci étant dit, il n'y a pas que ça. Il faut quand même être assez bon en orientation pour pouvoir être dans les premières places. Mais si on n'a pas l'ambition de toucher le podium, on peut faire une belle balade en cherchant les balises faciles et puis se placer tout simplement en finissant dans les délais. Et finir dans les délais, c'est l'objectif de beaucoup d'équipes. C'est pour ça qu'en modifiant tous les paramètres du RAID 28, des courses courtes, longues, avec des balises difficiles, moins difficiles, etc., on a un taux d'arrivant très, très important. Alors, je le mets en face du taux d'arrivant en 2000, on a eu 30% d'arrivants seulement.
Mmh. Ah oui, oui. Donc, effectivement.
Il faut une noria d'autobus pour ramener tout le monde.
Oui. Alors Patrick, juste pour finir, ça peut arriver parfois qu'on s'engueule, on arrive à mieux se connaître à travers comme ça une épreuve par équipe de nuit.
Alors dans l'équipe, il y en a qui se disputent un peu parce qu'ils sont pas toujours d'accord. Mais souvent, les gens sont préparés à ça. Donc, il n'y a, plus les disputes qu'on a pu connaître par le passé, parce que les gens sont mieux préparés, ils savent à quoi s'attendre. Alors, oui. Tout à l'heure, tu avais évoqué le problème des mésententes au sein de l'équipe RAID 28. C'est extrêmement rare.
Bah oui, je m'en doute.
Mais je pense que c'est une caractéristique des fous. On s'entend bien.
Allez, la pub, la musique, et puis on va conclure, Patrick, cette émission où, une nouvelle fois, comme d'habitude, on a été très très bavard.
RVE 103.7. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you keep me from feeling all alone.
L'EPRO France, des compagnons électriciens de Rambouillet. Des problèmes d'électricité? Besoin d'un dépannage, d'un conseil électrique? Une installation électrique ou d'éclairage LED? L'EPRO France. Une rénovation électrique de maison, commerce, industrie, particulier ou professionnel? L'EPRO France, c'est une équipe avec un savoir-faire familial, toujours professionnel, avec une garantie décennale. L'EPRO France, votre partenaire électricien proche de vous, c'est une équipe de compagnons électriciens qualifiés sur Rambouillet et sa région.
Les ampoules LED, projecteurs LED, bandeaux LED et des centaines d'articles LED à prix usine sont sur achatampouleled.com. Téléphone 01 30 88 97 54. 01 30 88 97 54.
Allez, on va conclure cette émission. Je voulais quand même, Patrick, qu'on parle du rôle des femmes dans le relais mixte, parce qu'elles ont souvent une approche et un regard différent qui peut permettre à une équipe de faire la cohésion.
Bien entendu, les femmes sont des participantes de plus en plus nombreuses dans nos trails. On leur fait une place à l'égal des hommes. D'ailleurs, la caractéristique du Red 28, c'est que les femmes courent d'égal à égal avec les hommes, puisqu'elles sont dans les équipes. Alors, principalement dans le Red 28, c'est obligatoire, mais dans les autres courses, on ne l'exige pas, mais il y a énormément de femmes dans les équipes. Énormément de femmes dans les équipes. C'est vrai que ça apporte autre chose. Elles ne sont pas forcément très aguerries en course d'orientation. Je prends un exemple d'équipe presque féminine. C'est l'équipe de notre ami Patrick Bonneau. Tous les ans, il vient avec ses drôles de dames, les mêmes quatre que tu connais. Et ce sont des fameux moments. Et pour nous, c'est un très grand plaisir d'accueillir des équipes mixtes parce que je ne peux pas tout vous raconter, il y en aurait pour des jours et des jours. Mais dans l'aventure des Red 28, les anecdotes avec les hommes, les femmes, les pertes, c'est formidable. Et on pourrait écrire un gros bouquin sur le sujet.
Très bien, ce sera un bon mot de fin. Merci Patrick, à très bientôt, bonne fin d'année. Hein, et puis on se retrouve très rapidement dans les prochains mois dans ce qu'on appelle la nouvelle vie, ok?
Allez, merci et rendez-vous sur les défis du Red 28.
Absolument, nous aussi, hein, on se retrouve la semaine prochaine naturellement pour notre dernière émission de l'année, entre 10h et 11h, une émission naturellement qui reviendra sur les quelques temps forts de l'année sportive 2020. Ça sera donc une émission spéciale rétro. Bon dimanche à toutes et à tous, merci à Damien et rendez-vous donc pour la rétro la semaine prochaine. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Plus de 25 000 personnes mobilisées hier en France contre le projet de loi Sécurité globale. Il s'agit de la troisième semaine consécutive de mobilisation contre cette loi. Dans le cortège, des pancartes dénonçaient également le projet de loi contre le séparatisme, jugé islamophobe. À Paris, 5 000 manifestants étaient réunis selon la police et plus de 100 interventions ont eu lieu. Justice, un client d'une prostituée défenestrée a été écroué hier soir à Saint-Étienne pour tentative de meurtre. Les faits remontent à mercredi. L'homme avait pris la fuite lorsque des témoins ont appelé les secours avant de se rendre le lendemain à la police. La jeune femme de 22 ans est toujours dans le coma. Son pronostic vital est engagé. 135